Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Ophélie. Bonjour.
Bonjour.
Tu es de l'accorderie à Die.
Tout à fait.
Nous avons aussi Sandrine.
Bonjour. Bonjour.
Avec le 101.7 à Luc Andiwa.
Oui.
Aurélie, bonjour.
Bonjour.
Pour l'espace social et culturel du Diwa. Et Marjolaine.
Bonjour.
Bonjour. Et toi, tu es donc pour l'association TIS, qui signifie
Tisser les initiatives et les solidarités dans la vallée de la Roanne.
Vous êtes toutes quatre ici à l'issue d'une réunion que vous avez organisée entre vous afin de travailler sur la préparation de ce nouveau projet social au sein de toutes ces EVS qui sont sur le Diwa et peut-être même au-delà. Alors avant tout, on peut peut-être demander à l'une de vous ce qu'est l'EVS, un espace de vie sociale.
Alors, un espace de vie sociale, c'est un peu comme un mini centre social, en fait. À l'origine, donc, il y a l'ESCDD qui couvre l'ensemble du territoire du Diwa. Et la CAF, puisque donc les espaces de vie sociale et les centres sociaux, puisque donc l'espace social et culturel du Diwa est un centre social, ont des agréments CAF. Et donc, à un moment donné, la CAF s'est rendue compte que le territoire du Diwa étant vaste, il a fallu compléter. Enfin, c'était bien de compléter avec des petites structures, donc les espaces de vie sociale, sur les bassins de vie. Donc, très progressivement, il y en a eu un premier, puis un deuxième, puis un troisième, etc., un quatrième. Et au total, il y a donc 6 structures d'animation de la vie sociale dans le Diwa. Donc, 1 centre social, le SCDD, et 5 espaces de vie sociale. Donc, je le dis aussi maintenant, donc on n'est pas toutes là autour de la table. Donc, il y a Julie qui représente les Lucioles à Luce-la-Croix-Haute et Marie-Aude et Maëna qui représentent l'espace de vie sociale de la Vallée de Quin. Voilà, elles n'ont pas pu être avec nous cet après-midi.
Alors, l'EVS, ça permet justement de produire de l'animation, de vie sociale au sein de la population. Et justement, cette création d'EVS était nécessaire pour pouvoir pratiquer cette animation auprès de la population, mais même aussi des familles.
Effectivement, du coup, la CAF s'est rendue compte que l'espace social avait du mal à aller sur tous les territoires, parce que notre territoire est très vaste. Et donc, il y avait des besoins, quand même, sur les petites communes, même s'il n'y en a pas beaucoup d'habitants, il y a quand même des besoins. Et donc, voilà, ils se sont appuyés sur des structures existantes, des associations, qui déjà avaient une importance sur le territoire. Et elle leur a demandé de faire un diagnostic des besoins pour pouvoir après élaborer un projet social qui répondrait à ces besoins.
Et aussi, ce qu'on peut rajouter sur les espaces de vie sociale, c'est que nous sommes aussi des lieux de proximité parce qu'effectivement, le SCDD couvre l'ensemble du territoire. Mais voilà, quand on a un besoin un peu immédiat d'accès aux droits ou autre, ça peut être très varié. On détaillera tout ça sûrement au fur et à mesure de l'interview. Mais nous sommes des lieux de proximité, c'est-à-dire que les habitants n'ont pas forcément besoin de faire une heure de route ou 40 minutes de route pour chercher un service.
Et justement, chaque EVS a sa particularité locale et peut-être que j'inviterai quelques-unes de vous de nous expliquer un peu la mission et les services qui y sont rendus.
Bah oui, je veux bien présenter rapidement l'accorderie du Pays d'Iwa. Oui. Donc l'accorderie du Pays d'Iwa est un espace de vie sociale depuis 2014. L'association existe depuis 2012. Et en fait, on a la particularité d'être présent à plusieurs endroits du territoire. Donc on est à Die avec un local, rue Camille Buffardel. On est aussi dans la vallée de Loul avec un groupe local. Ensuite, on est aussi à Saillant et dans le Haut-Diwa avec des permanences qui se tiennent à Luc-en-Diwa au 101.7. Et notre particularité, nous, c'est qu'on propose aux habitants de faire des échanges de services à travers la monnaie de temps. Et au-delà du fait que ça permet d'améliorer la qualité de vie, c'est surtout pour créer du lien et que les habitants puissent se rencontrer. Et dans notre projet social, on a effectivement des axes autour de la lutte contre l'isolement, contre la précarité.
Et donc, la corderie peut se retrouver aussi dans divers dispositifs hein, au niveau du DIWA. Dans les autres VS, il y a des partenariats possibles.
Bah, en fait, la particularité de notre territoire avec tous ces espaces de vie sociale et le centre social, c'est que justement, on est amené à travailler ensemble pour mailler le territoire et parce qu'il y a des thématiques qui sont communes. Donc voilà, on a fait des choses avec le Tisse Vallée de la Roanne autour de la couture. Avec le 101.7, on est sur la fête en famille au mois de septembre.
Et le SCDD aussi.
Et le SCDD, ouais, pardon. Enfin voilà, en tout cas, on vu qu'on se rencontre assez régulièrement, qu'on fait le point de où on en est, en fait, on crée des ponts et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce qu'on mutualise nos connaissances, nos compétences, nos moyens humains, nos idées et on en a plein.
C'est un vrai complément en fait et un vrai travail partenarial.
L'espace social en fait et même
Aurélie.
L'espace social justement a été missionné par la CAF d'avoir ce rôle un peu d'assurer de la coordination entre ces EVS et voilà pour faciliter ça a plein d'avantages en fait d'apprendre à se connaître, de partager ses ressources, de partager ses outils d'animation, ses inquiétudes aussi qu'on peut avoir ou ses difficultés qu'on peut avoir sur comment mener des projets d'habitants. Voilà. Donc, ça fait depuis 2023, en fait, qu'on a mis en place cette coordination. Et voilà, là, il y a eu un souhait de la CAF de dire, bon, ben, vous travaillez ensemble, et ben, du coup, on vous met tout sur le même tempo, en fait, pour demander un nouveau projet social pour que vous travailliez ensemble, en fait.
Sandrine, faisant partie du 101.7, le plus jeune EVS oui. du DIWA, qu'est-ce que le public ou les familles peuvent y trouver ?
Alors déjà, ce que je peux préciser, c'est que le 101.7 donc est un espace de vie sociale, mais est une des activités de l'association Radio DIWA. Donc en fait, c'est très rapidement, pour faire un peu l'historique, donc RDIWA avait besoin de couvrir en termes d'émissions le Haut-Diwa. Donc, quand l'ARCOM ou le CSA, je ne sais plus, a donné une fréquence qui est le 101.7, donc RDIWA a ouvert un studio pour le Haut-Diwa, donc qui est basé à Luc. Et justement, il n'y avait pas d'espace de vie sociale pour le Haut-Diwa. Et très exactement, l'ancien canton de Luc-en-Diwa, donc on a un territoire de 18 villages. Donc on a effectivement réalisé un diagnostic de territoire pour avoir un retour des habitants et des habitantes pour savoir quels étaient les besoins sur le Haut-Diwa. Donc on a cette particularité d'être un espace de vie sociale voilà, radiophonique, comme on le dit, c'est-à-dire que la radio est très régulièrement présente sur les toutes les actions que l'EVS propose et avec le support radio, créer des reportages, créer des tables rondes. Voilà, donc on utilise le média radio en soutien et en complément de toutes les actions que l'on peut faire. Et donc au 101.7, on a un de nos axes principaux qui est l'accès aux droits, lieu d'information, lieu d'accueil. On peut utiliser des ordinateurs, du Wi-Fi, on peut avoir un accompagnement administratif de premier accès. C'est-à-dire que sur des petites démarches administratives. Le deuxième axe, c'est autour de la parentalité et de la jeunesse sur le territoire. Et le troisième axe, c'est autour de la question de la transition écologique au sens large du terme. Donc, toutes nos actions et nos projets tournent autour de ces trois axes depuis 4 ans.
Marjolaine, donc, pour TIS.
Oui, du coup, le TIS a été créé il y a longtemps. C'est une association donc, de territoire qui avant portait l'agence postale et l'office de tourisme. Puis après, elle a muté, elle a pris de nouvelles missions. Voilà, on est une association multiservice qui aujourd'hui a toujours l'agence postale communale, l'espace public numérique, le point lecture et l'espace de vie sociale depuis 2020. Et donc, l'espace de vie sociale à différents axes, notamment la communication, l'accès aux droits, la mobilité, l'animation sociale, culturelle toute l'année et le lieu des possibles et l'entraide. Voilà.
C'est également, je crois, un pied-à-terre pour des organismes administratifs. De temps en temps, il y a des permanences et ça, c'est possible.
Alors, Au 101.7, effectivement, nous avons 6 permanences mensuelles ou bimensuelles de différents partenaires. Donc, le premier partenaire et la première permanence en date, c'est effectivement la Corderie du Pays d'Ivoire, qui a une permanence tous les premiers vendredis du mois. Il y a le conseiller numérique de France Service qui vient aussi tous les mois. Il y a la mission locale qui se déplace 2 fois par mois pour justement ces questions de mobilité, pour éviter que les jeunes ne fassent du stop jusqu'à 10, pour leur faciliter l'accès à la mission locale. On a la PASS qui est l'accès aux soins et l'accompagnement pour avoir un accès facilité aux soins donc qui dépend de l'hôpital de Die. Nous avons également la Rebellion, qui est une association. Nous avons Dromolib, qui a aussi une permanence mensuelle autour des questions de mobilité. Et la Caisse commune de l'alimentation du Diwa, aussi, qui est présente tous les mois.
Tu veux rajouter quelque chose, Aurélie ?
Ben oui, en fait, dire effectivement aussi que le centre social, un espace de vie sociale, a 4 grandes missions, en fait. Donc l'accueil, l'accès aux droits dont Sandrine vient de parler, et où on est ouvert, on a un espace informatique avec des conseillers numériques qui aident, et voilà. On est à l'écoute du territoire, en fait. La spécificité de nos structures, c'est ça. On est à l'écoute des territoires, on est des maisons. Moi, j'appelle ça la maison des habitants. Parce que voilà, quelqu'un qui a un projet, qui a une idée, en parler avec une personne. Le centre social, c'est la plus vieille structure sur le territoire. C'était une MJC qui est devenue un centre social dans les années 2000. Et du coup, effectivement, on n'a pas le même impact parce qu'on est une 20aine de salariés. Il y a plusieurs secteurs, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'accueil aux droits, les activités sportives et culturelles. Qui est vraiment très importante pour nous parce que c'est une 30aine d'activités qui sont proposées aux habitants à l'année, avec de nombreux créneaux et voilà. Et ma partie à moi qui est l'animation associative, animation territoriale. Je suis beaucoup à l'écoute des associations qui sont sur le territoire et je suis là un peu pour aider à mener des projets s'il y a des projets d'habitants qui voient le jour.
Nous abordons l'aspect du projet social. Il y en a un qui se termine. Peut-être peut-on rappeler quels étaient les enjeux de ce dernier projet ?
Alors, nous, au 101.7, donc, il y a ces 3 axes que je vous ai cités qui se sont déclinés donc, en plusieurs actions. Et aussi, on avait cet enjeu, comme on est tout jeune, 4 ans, de se faire connaître sur le territoire, et que les habitants et les habitantes du territoire s'approprient le lieu et se faire connaître. Donc ça, c'était vraiment le premier enjeu. Et de couvrir, pas tous les besoins, mais... un maximum de besoins en fonction de nos compétences. Sinon, on fait appel à d'autres partenaires comme Dromolib pour la mobilité. Donc, je précise aussi qu'on a un véhicule en autopartage depuis le mois de juin grâce à l'association Dromolib. Donc nous, dans notre premier projet social, c'était aller à la rencontre des habitants et de proposer des projets, des actions en fonction de ces 3 axes sur diverses thématiques.
Je peux peut-être demander à Marjolaine ensuite quelles étaient les possibilités ou les propositions pour ce dernier projet social ?
Alors, l'enjeu, oui, de cette année-là pour nous, c'est de faire le bilan, en fait, de nos différents axes, de nos actions, et d'aller auprès de la population et de les questionner sur qu'est-ce que le VS a apporté, leur a apporté au quotidien pour faciliter leur vie quotidienne dans le Diwa. Et qu'est-ce qu'on n'a pas apporté ? Qu'est-ce qu'on pourrait créer ensemble ? Cette année, ce sera le grand enjeu d'aller recueillir de la parole, des envies. Et après avoir recueilli cette parole, ce sera le moment de faire le bilan de tout ça et de faire une restitution de tout ce qu'on a pu récolter. Et après, on rédigera notre projet social avec les nouveaux axes. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir aller auprès des habitants pour connaître les nouveaux besoins.
La Corderie, est-ce qu'il y a aussi ce type de mission d'aller au devant du public, d'aller à la demande de ce qui est nécessaire ?
Eh ben, en fait, la partie de diagnostic, donc quand on dit qu'on va aller rencontrer les habitants, les questionner sur leurs besoins, leurs envies, donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Et ça, en fait, c'est un prérequis pour faire un bilan, en fait, pour faire un projet social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer des actions, des animations, des événements si on ne sait pas de quoi ont envie ou besoin les habitants. Donc, c'est de fait, on va le faire aussi et on est en train de le faire. Et en fait, l'idée, c'est que... Alors, c'est des grands mots, parce qu'on a, c'est une sorte de langage institutionnel. Faire un projet social, tout ça, un diagnostic de territoire. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, tout simplement? C'est que nous, au quotidien, en fait, nos structures, elles portent des actions, elles portent des initiatives, elles accompagnent les habitants. Et en fait, pour pouvoir le faire, on a besoin d'argent. Et donc, on est... soutenu par la CAF pour ça. Et donc, il faut qu'on montre à la CAF, en fait, comment on fait bien notre boulot. Parce que finalement, en fait, j'ai envie de dire que c'est pas une... On va forcément avoir nos agréments. Parce que la CAF nous soutient. Parce que la CAF est un partenaire. C'est pas juste... on n'est pas attendu au tournant, en fait. Par contre, là, ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment d'aller dire aux habitants... Pendant 4 ans, on a fait ça. Et c'en est où, maintenant? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que... Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais oui, on va le faire. Et on va prendre beaucoup de plaisir à le faire, parce qu'en fait, on le fait un peu toute l'année. Mais là, il y a vraiment l'idée d'y aller encore plus régulièrement, voilà, d'être encore plus présent dans la rue, dans les marchés.
Sandrine?
Oui, pour étayer ce que dit Ophélie, justement, c'est que la CAF apprécie ce travail. Et c'est un peu... On est un peu... les seuls, justement, et Aurélie en parlera aussi mieux que moi, je lui laisserai aussi la parole pour développer ça, mais à travailler vraiment en vrai partenariat, en intelligence, en solidarité entre donc ces 6 structures de l'animation de la vie sociale. Et la CAF est ravie de ça, en fait. Bah ouais, faut le dire, je pense que chacune des structures fait un vrai travail de qualité. Enfin, voilà, c'est pas évident de le dire parce qu'on est toutes concernées, on est là autour de la table, mais on a un vrai engagement sur nos territoires. Et qu'on y soit depuis longtemps ou pas. Et en fait, oui, je crois que la CAF nous fait vraiment confiance dans tout le travail qu'on fait. Alors bien sûr, elle surveille, elle a besoin de retour, bien entendu, hein, parce que c'est de l'argent public que la CAF aussi nous via les agréments et via les actions qui sont financées, donc c'est normal. Mais voilà, on sait qu'on a ce soutien de la CAF.
Je revenais un peu sur... Oui, Aurélie, tu voulais intervenir?
Oui, je voulais dire qu'en fait, aussi, une spécificité de nos structures, en fait, c'est qu'on est très proche des habitants. On peut aller les solliciter, on peut aller les interroger, en fait. Pour la plupart, ils nous connaissent, en fait, et voilà. Et surtout, du coup, on recueille la parole, en fait. Ce que les organismes statistiques, les structures statistiques ne font pas. Elles recueillent le profil, les caractéristiques et tout ça. Et ça... Ça, c'est des données qu'on va avoir, en fait, et qui nous permettent aussi de mieux connaître le territoire, c'est un fait. Mais il y a aussi le fait, et par les outils, on va pouvoir en parler, les outils qu'on utilise, c'est-à-dire la manière dont on va aller questionner les gens, quand on va aller... je pense que c'est pas commun d'aller dans un bar, aller questionner un peu l'habitant du village d'à côté, voilà, au moment où il prend son café, ou sur un marché, de prendre le temps, en fait, de discuter à la sortie des écoles, d'écouter les parents, parce que les besoins des parents, c'est pas les mêmes que les besoins individuels, selon qu'on soit, selon qu'on ait constitué une famille, ou selon qu'on soit célibataire. Il y a beaucoup de spécificités. On se dit pas qu'on va questionner, je veux dire, on n'a pas la prétention de dire qu'on a l'avis de tout le monde sur le territoire, mais que quand même, en fait, par des petites actions et tout ça, on arrive à avoir, à un moment donné, un peu, mais quelles sont les préoccupations des gens, quels sont les besoins des gens et comment on peut, nous, y répondre. On ne peut pas répondre à tout, mais on peut répondre en mettant du lien social, mettant de la convivialité sur le territoire. Et voilà.
Ce qui permet de développer l'entraide. Voilà, entre les habitants. Et nous, nos structures, c'est pas que faire de l'animation, c'est aussi de savoir fédérer les gens autour d'un projet et de les accompagner à réaliser ce projet. Parce que voilà, on est financé pour... on a du temps de travail de financer, mais on peut pas tout faire. Et voilà, c'est vraiment de rendre acteurs les habitants des projets qu'ils veulent mettre qu'ils veulent voir arriver sur leur territoire.
Aurélie, le SCDD est en quelque sorte un coordinateur aussi de ces EVS. Oui. Et il y a donc un partenariat et peut-être un dialogue plus étroit avec la CAF pour répondre aussi à un certain cahier des charges, si je puis dire.
Oui, tout à fait. On a ces deux temps. J'ai ce temps de coordination avec l'ensemble des structures et on a réfléchi en toute intelligence en fait cette année en se disant on va questionner les gens, on va essayer de pas les questionner 100 fois. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, on va échanger les informations, la manière dont on s'y prend pour être sûr en fait que ça fait lien et qu'en fait chacun après avec la matière collectée, on va pouvoir partager et je pense qu'on va avoir une jolie carte du territoire. Donc voilà, c'était important qu'on le fasse. Et à la fois, j'ai des réunions effectivement avec la CAF où je fais remonter le travail qui est fait par les structures en fait et la manière dont on le fait. Sans complexifier un peu trop, mais il y a d'autres diagnostics, il y a d'autres questionnaires qui vont arriver sur le territoire, pas par le biais des EVS et tout ça, mais par rapport, la communauté de communes va aller questionner aussi. Elle a aussi ce rôle-là via certaines conventions qu'elle a, parce que la communauté de communes est aussi conventionnée avec la CAF, et la CAF demande à la communauté de communes d'aller aussi sur le terrain. Donc, on travaille en toute intelligence, en se réunissant, en partageant les infos pour éviter de poser 10 fois la même question à une personne, à un habitant.
Est-ce que la CAF, dans sa demande, peut-être vous sollicite à donner des objectifs sur la population?
Je ne vais peut-être pas très bien le dire, mais il y a des directives nationales qui viennent de la CNAF, qui sont transmises aux différentes CAF en France, selon les départements. Et on a un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on est libre de choisir nos actions, mais on a des grandes thématiques à respecter, notamment la famille, l'accès aux droits, l'accueil. Voilà, on a des grandes thématiques, en fait. Mais après, dans ces thématiques-là, on s'en saisit comme on le souhaite. Par exemple, on peut témoigner un petit peu, mais nous, sur l'axe de la parentalité, on a un projet avec 2 actions distinctes. On a un café des parents très régulier et on a la fête en famille que l'on co-organise avec la corderie du Pays d'Iwa et avec le SCDD. Mais sur d'autres espaces de vie sociale ou à l'ESCDD, l'axe parentalité ou l'axe famille se décline avec d'autres types de projets ou d'autres types d'actions, en fait.
À l'image de justement la fête aux familles ou la fête du circuit court hein, créée par oui. le 117.
Oui.
Est-ce que vous, d'autres, comme Marjolaine pour l'UTIS, quelles sont les propositions faites pour aller au public et
Alors, nous, on a essayé ces 6 dernières années là, de créer des rendez-vous annuels. Et notamment, on a la fête des habitants de la vallée de la Roanne qui a lieu au mois de juin chaque année, avec un programme qui peut satisfaire tout le monde, les enfants comme les personnes âgées. Il y a un concours de tartes, des jeux pour enfants et familles, un concert le soir, un repas traiteur, enfin voilà, tout le monde. Le but, c'est de se retrouver sur la place du village et de passer un bon moment. Et rien que déjà pour créer la fête, ça rassemble du monde. Il faut des bras pour monter les barnums, la buvette, tout ça, ça crée du lien. Voilà, on a cette fête-là et on a aussi le vide-grenier de Saint-Nazaire qu'on organise et la fête des Lumières. Et aussi par mois, on a le café villageois, les fins d'après-midi jeux. Voilà, on a, ça ne manque pas.
À l'image donc du TIS ou même du 117, est-ce que les autres VS aussi sont en quelque sorte des synergies locales et où justement le public s'implique aussi dans cette organisation par le bénévolat ou prêter ses bras?
Eh bien, en fait, ce que je peux dire par rapport à l'accorderie du Pays d'Iwa, c'est que les accordeurs ne sont pas considérés comme bénévoles. Parce qu'en fait, dès qu'ils donnent et ils rendent service à l'accorderie pour quoi que ce soit, donc pour organiser un événement, animer un atelier, donc ils sont rémunérés en heures. Et avec ces heures, ils vont pouvoir aller dans d'autres ateliers ou faire des échanges individuels. Donc nous, on n'a pas de notion de bénévolat. Par contre, ce qui est sûr, c'est que donc, l'accorderie, c'est 1220 accordeurs. Et nous, on est 2 salariés. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas nous, moi et Dorine, les salariés qui faisons vivre l'association, c'est les accordeurs. Et donc, ils sont, grâce à la gouvernance partagée, en fait, on a des groupes dans lesquels sont impliqués les accordeurs pour faire vivre au quotidien l'association Et en fait, vu qu'un de nos axes, c'est donc du projet social, c'est l'implication des habitants, bah, on est en plein dedans, c'est-à-dire que l'accorderie fonctionne grâce aux accordeurs. Et nous, les salariés, on est là pour coordonner et accompagner et soutenir. Et je pense que c'est ce qui se passe dans la plupart des EVS. En fait, l'idée, c'est que les salariés sont là en soutien.
Pour ce qui est des Lucioles, Luce-la-Croix-Haute, c'est aussi cette même dynamique.
Oui, oui, oui. Avec de nombreux événements, je ne les ai pas en tête.
La fête mycologique.
Je pensais à la même, parce ouais. qu'elle, elle existe depuis plusieurs... c'est plutôt en octobre, ouais, la fête des champignons. Et la, voilà, ils ont plein d'occasions. Luce-la-Croix-Haute, en fait, c'est un village avec plein de hameaux différents. Et je crois que c'est un peu une spécificité de ce VS, c'est de faire le lien entre les hameaux, en fait, et de faire lien village. Parce que finalement, c'est sur une commune, c'est un peu spécifique, quoi. Et c'est pas un quartier, c'est une commune, mais qui est un peu... Et le VS est associé à plein d'autres services à côté. Donc, en fait, aussi, les habitants repèrent plutôt cet ensemble, en fait... Mais en tout cas, elle joue un vrai rôle social, en fait. Ça, c'est clair. Et ça se traduit, oui, par des animations, des ateliers tout au long de l'année, des activités qui peuvent être proposées tout au long de l'année. Oui.
Actuellement, donc, il y a ce travail de réflexion pour préparer le nouveau projet social hein, de vos EVS. Est-ce qu'il y a des pistes qui mettent... qui mettent un peu la motivation de cette réflexion.
Bah là, en fait, on n'est plus vraiment dans la période de réflexion, c'est-à-dire que là, on est plutôt dans une période d'action. Là, le printemps, on est auprès des habitants, on va à leur rencontre avec différents moyens, à différents moments. On pourra peut-être développer un tout petit peu. Là, en fait, on est à l'extérieur, on fait vraiment de l'aller vert, ce qu'on appelle l'aller vert. Et donc, c'est de l'action. Ensuite, à partir du mois de juillet, on va revenir un peu dans nos bureaux pour analyser toute la récolte qu'on aura fait. Et en septembre-octobre, on va ressortir auprès des habitants pour leur dire « Regardez tout ce qu'on a récolté, est-ce que c'est bien conforme à ce que vous nous avez dit? Est-ce que vous êtes OK avec ça ?» Et après, on repart dans notre bureau. Et là, l'hiver, donc ça tombe bien, il y a moins de soleil. C'est le moment où on va écrire notre projet. On aura suffisamment d'informations pour définir nos axes. Et c'est important de dire que nos axes, ils seront vraiment liés à qui on est en tant que structure. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'éloigner de ce qu'on sait. On ne va pas faire des trucs qu'on ne sait pas faire. Hein. Voilà. Et ensuite, on va, début d'année, aller voir la CAF et lui présenter notre projet. Et ensuite, on aura un coup de tampon et c'est parti pour 5 ans.
Et en fait, ce qui est intéressant, Aurélie pourra nous le détailler parce que ça émane aussi de la coordination que gère le VS, c'est-à-dire qu'on travaille, on a déjà anticipé tout ce travail de renouvellement de projet social et familial depuis l'automne dernier, en fait.
Oui, en fait, pour être actif là en avril, en fait, être dans la rue et tout ça, c'est parce que ça a été travaillé avant, en fait. On a réfléchi ensemble à un agenda. Voilà, pour savoir comment on a les coordonnées. La présence ici même, en fait, qu'on fasse une interview commune, en fait, c'est réfléchi d'avant parce qu'on s'est dit, eh ben, on va voir si ça serait pas plus intéressant de communiquer tous ensemble. On a fait un petit jingle il y a ça deux semaines, oui. À peu près, pour voilà, juste un petit truc assez marrant, un peu flash, qui dit. Attendez-vous à nous voir, on va aller récolter un peu votre parole et tout ça. Et voilà, donc oui, il y a eu une décision de faire une communication commune via la radio, via la presse. Il y a eu un article dans le JDD cette semaine, via le jingle, via nos lettres d'infos, parce qu'on est chacun, en fait, on a aussi une communication via les habitants qu'on côtoie et voilà. Une décision, un agenda commun, mais avec des spécificités. Chacun a choisi quelle thématique il voulait questionner, quelle forme ça devait prendre, quel temps donner, parce que je pense qu'on a aussi vu aussi en fonction... on peut juste le dire, on n'est pas financé sur ce temps-là, en fait. On doit rajouter ça à nos tâches quotidiennes et nos missions quotidiennes. Voilà, mais depuis octobre de l'année dernière, en fait, on parle de ça à nos réunions de coordination. On parle de comment en fait, on va faire cette année 2026, en fait, pour avoir un temps de bilan, un temps de diagnostic, un temps d'analyse, un temps de restitution et un temps d'écriture de projet social, comme a dit Ophélie, comme a détaillé Ophélie tout à l'heure. Voilà.
À l'issue de ce projet social actuel, est-ce que vous avez établi un bilan des actions menées? Quelles sont celles qui seront peut-être à renforcer ou alors à créer?
Moi, je peux... voilà, parce que par secteur, en fait, et par thématique, on fait un peu un bilan de comment c'est fait et tout ça. Moi, je suis sur l'animation territoriale, donc je suis sur les thématiques, en fait. Il se peut que, dans ce nouveau projet social, la thématique mobilité soit plus un axe aussi important, en fait. Alors que ça l'était sur le projet social qui vient de passer. On avait aussi des financements aussi pour développer cette thématique, la mobilité, notamment la mobilité solidaire. Et par contre, un des projets qu'on garde dans ce nouveau... c'est pas encore écrit, mais c'est quasi sûr, c'est la question du logement et de l'habitat. La question du logement et de l'habitat, depuis 2014 qu'on fait des renouvellements de projets sociaux, c'est toujours la première thématique qui sort. C'est un vrai besoin sur le territoire, une vraie difficulté de trouver du logement, de trouver un logement sain, à un prix qui correspond aux personnes, et voilà. Alors nous, on n'a pas les moyens, hein, en tant que VES, en tant que centre social, on n'a pas les moyens de créer un immeuble, mais par contre, d'être à l'écoute et d'être le relais, en fait, de cette parole et tout ça, pour dire que, voilà. Voilà.
Est-ce que vous avez aussi cette possibilité d'aller vers les acteurs de territoire, l'économie locale aussi, qui puisse peut-être vous aider ou seconder sur des objectifs?
Là, je pense que ça se joue plutôt effectivement sur la question territoriale et le centre social. Oui, le centre social, on est en lien avec les partenaires complètement politiques, les communes, l'intercommunalité. Sur pas mal de dossiers, on travaille ensemble avec l'intercommunalité. Et oui, on se fait le relais de ça complètement, oui.
Alors, justement, l'habitat, les communes aussi ont certainement une grande part de travail à y mettre. Ça, c'est...
Oui.
Il y a des rapprochements auprès de ces collectivités et puis des demandes aussi de la population pour trouver le meilleur chemin.
Alors, la relation entre structures sociales et communes, en fait, elle est vraiment spécifique pour chaque structure. Il y a vraiment des EVS qui travaillent bien avec la ville ou le village sur lequel ils sont. D'autres, c'est plus compliqué. C'est vraiment... mais voilà, ouais, peut-être que vous pouvez témoigner. Ouais.
Marjolaine. Oui, par exemple, sur la vallée de la Roanne, et, étant ancien office de tourisme, dans nos statuts, nous avons en membre de droit tous les maires de la vallée de la Roanne, des 11 communes de la vallée de la Roanne. Et du coup, c'est resté comme ça et c'est très bien. On est une association de territoire et du coup, on travaille avec les communes pour monter des projets. Et notamment, un des projets importants du moment, c'est le lien avec la commune de Saint-Nazaire-le-Désert. Parce que là, jusqu'à maintenant, on avait un problème d'accessibilité dans nos locaux qui n'étaient pas adaptés, trop petits par rapport à notre structure qui a vraiment évolué. Et donc, avec la commune de Saint-Nazaire, on a réussi à se mettre autour de la table, à définir les besoins de notre association, mais aussi des associations locales, et de réfléchir à un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur la commune. Donc, c'est un gros projet pour la commune. Pour l'association, c'est un gros coup de pouce. Et voilà, ça montre comme quoi on peut monter des projets en lien avec les communes pour améliorer le quotidien des habitants.
Et parfois, justement, est-ce que l'action de l'EVS est aussi de réveiller les consciences de certaines municipalités sur des problèmes dont elle n'a pas forcément une évidence?
On est là en complément, j'ai envie de dire. Et il faut vraiment qu'on le voit comme ça et que les élus le voient comme ça aussi. Parce que l'objectif, c'est d'être là pour les habitants. Hein. Donc vraiment, je pense qu'on peut être des oreilles supplémentaires voilà, et apporter parfois des réponses un peu plus rapides que les communes, voilà, pour les communes c'est un peu plus compliqué de mise en place ou de choses comme ça. On a la souplesse des associations pour mettre en place des projets facilement. Donc voilà, c'est vraiment complémentaire, je pense.
Moi, je peux donner un exemple très rapide. Hein. Justement, quand, enfin, le 101.7 n'a pas une compétence très spécifique pour travailler sur la mobilité, mais on a fait appel. Enfin, c'est plutôt le partenaire extérieur qui est venu nous voir, donc Dromolib, et qui nous a mis à disposition un véhicule électrique en autopartage. Donc, nous avons dit oui à l'EVS, parce qu'effectivement, le Haut-d'Ivoire n'est pas bien desservi, ni en train, ni en bus. Et en fait, la mairie de Luc en Diwa, là où nous avons nos locaux, nous a aussi aidé financièrement, ainsi que la communauté de communes, sur des petits montants, je vais le dire comme ça, mais en fait, peu importe, ça nous a permis de mettre en place le projet. Et on a réussi à avoir un tarif très... très le plus bas possible, en fait. Et donc, le véhicule... quand on l'utilise, c'est 0,33 centimes du kilomètre. Voilà, il n'y a pas d'autre coût. Et on le paye que au kilomètre, on ne le paye pas à l'heure. Voilà. Et donc, sans le soutien de la mairie de Luc en Diwa, qui nous aide sur le coût de l'électricité, qui nous a donné son accord pour que la voiture reste garée, etc. Sans ce soutien-là, on va aussi très probablement sortir un troisième branchement pour que, parce que l'été, il y a beaucoup de, avec le tourisme, etc., il y a beaucoup de véhicules électriques. Et donc, il y a une borne avec deux points de recharge et c'est pas suffisant l'été. Donc la mairie de Luc a dit ok, on va réfléchir à ça, on va trouver un troisième point pour le véhicule lui-même. Et le maire de Luc, et ça je tiens aussi à le souligner, a dit mais moi je veux que les élus et les salariés de la mairie puissent bénéficier du véhicule pour leur rendez-vous professionnel lié à la mairie pour qu'ils puissent avoir ce petit coup de pouce de passer le cap d'utiliser un véhicule électrique, etc. Donc ça, moi, je trouve ça super chouette. Et effectivement, le maire de Luc en Diwa nous soutient et est très ouvert à ce qu'on fait aussi. Et même pour la fête en famille, on est super accueillis, on est super aidés le jour J. Et c'est vraiment important, en fait.
Pour le public, est-ce que vous lui avez demandé ce que serait un EVS idéal pour le public ? Et est-ce que vous avez une réponse qui correspond à leur attente ?
Bah, écoute, je trouve que c'est une super question. Tu vois, on n'avait peut-être pas encore complètement finalisé nos questionnaires. Je pense que je vais la caler à un moment donné.
Mais on la garde. Une baguette magique.
Voilà, on va la garder celle-là. Merci. Non, mais en fait, je rigole, mais en fait, les questions qu'on pose, ça tourne autour de ça. Hein. C'est-à-dire qu'on leur demande, t'as envie de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, il y a à la fois la nécessité, dans notre vie pratique, de quoi on a besoin, et en fait, qu'est-ce qui nous fait rêver aussi ? Et donc ça, c'est toutes les questions qu'on pose, elles tournent autour de ça.
S'ils nous connaissent, s'ils connaissent nos services, et si on ne propose pas les services dont ils ont besoin, bah, voilà, qu'ils nous en parlent, quoi.
C'est aussi... C'est peut-être aussi un lieu où l'on peut venir quand on peut. Et pour cela, est-ce qu'il y a en quelque sorte une permanence, même au-delà du local, hein, c'est-à-dire du bâtiment ? Est-ce qu'il y a aussi une jonction qui s'opère de personne à personne ?
Alors, par exemple, sur la vallée de Quin,
oui.
On peut parler de la vallée de Quin. Oui. Y a le mois de décembre pas comme les autres qu'ils organisent et que je trouve formidable. C'est en fait chaque habitant peut proposer un événement qu'il a envie de proposer. Ça peut être regarder un documentaire, organiser un repas partagé. Il y a quoi d'autre ?
C'est chez l'habitant, en plus, voilà. ils s'accueillent les uns
voilà,
chez les autres.
Ils peuvent s'accueillir les uns chez les autres, ils peuvent juste organiser. Et du coup, ça permet de créer un mois de décembre chaleureux et qui crée du lien. Et c'est les habitants qui font vivre ces activités-là. Donc, c'est chouette.
Aurélie, peut-être un mot pour conclure cette émission ?
Pour donner un exemple, en fait, de ce qu'on fait en commun et de la coopération qui s'est mise en place entre nous, en fait, il n'y a pas longtemps, on a décidé ensemble de répondre collectivement à un appel à projet de la Fondation de France qui a pour but d'aller vers des personnes un peu isolées, des personnes, on sait qu'en milieu rural, C'est pas toujours simple. On a des communes qui sont vraiment un peu loin des centres-bourgs et tout ça. Donc, l'objectif de l'appel à projet, c'est d'aller vers ce public-là pour faire du lien social et pour aller recueillir la parole. Et voilà. Et il a été décidé collectivement de répondre à ça. C'est l'accorderie avec le 101.7 qui était plutôt sur la partie écriture. Il y a eu une relecture des autres structures. C'était plutôt la Vallée de Quinte qui était sur les chiffres et tout ça. Et on espère que notre projet va passer. Je pense qu'il y a de... Il y a beaucoup de bons signaux. On a déjà, on a eu quelqu'un de la Fondation de France, en fait. Il y avait une interlocutrice qui nous a un peu donné des éléments. Et ben, on espère que ça aboutisse, en fait, et qu'on puisse faire ce projet qui sera sur 2 ans et qui viendra illustrer, en fait, notre travail de coopération. Quoi.
C'est un soutien supplémentaire. Et justement, cet aspect de coopération entre nous, ça a été un point très positif. Et c'est pour ça qu'on a bon espoir que notre projet soit retenu.
Oui, parce qu'il faut juste rajouter qu'on parle beaucoup de la caisse d'allocation familiale, qui effectivement, c'est grâce à la caisse d'allocation familiale qu'on peut exister. Mais en fait, on a besoin d'aller chercher d'autres financements parce que ça ne suffit pas à faire vivre les structures. Donc on est quand même, en plus, dans le contexte actuel associatif, voilà. Donc on cherche encore de l'argent et voilà, la Fondation de France, ce serait top.
Tout comme le SCDD et les EVS ont leur propre site internet pour connaître leur activité, leur accessibilité et les services qu'on peut y trouver.
Tout à fait, tout à fait.
Et je peux rappeler rapidement, pour chacune, l'accorderie, c'est quoi l'adresse ?
On tape sur Google « accorderie du pays d'Iwa » et on nous trouve tout de suite.
Le 101.7.
Alors c'est le 101-6-7.fr.
Et pour le TIS ?
C'est tisvalleedelarouane.fr et on a notre page Facebook aussi.
Et puis, on peut peut-être citer les Lucioles également.
Alors, les Lucioles, je crois qu'ils n'ont pas de site internet, mais Val-de-Quin, ils en ont un.
Val-de-Quin.fr, escdd.fr. Et il y a même un site qui est en cours de construction qui reprendra un peu ce travail de questionnement, de parole en fait, qu'on aura recueilli.
Et où on trouve nos projets sociaux actuels. Comme l'a dit Aurélie, on va le nourrir des paroles qu'on va récolter. Et quand nos nouveaux projets seront rédigés, vous pourrez y accéder. Et donc, on
faut
y passe.
Projets sociaux ESCDD et vous tombez dessus.
C'est hébergé sur le site internet de l'ESCDD.
Eh bien, Ophélie, Sandrine, Aurélie et Marjolaine, je vous remercie toutes quatre d'être venues sur RDIWA pour nous parler donc de cet établissement, du projet social à venir pour les espaces de vie sociale et le SCDD. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Oh,